consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Les interrupteurs. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Guy Roulet, Véronique Bessière, Françoise Boire et Léane Garnier. Seconde et dernière partie. Le narrateur, dont on ignore le nom, mène une enquête sur un groupe de rock ayant officié à Lyon en 1980. Pour cela, il rencontre ceux qui les ont croisés, un régisseur, une spectatrice, un directeur de label. Mais son enquête n'avance guère.
Les interrupteurs, mon Dieu, ils ont été parmi les premiers à venir enregistrer au studio. La veille, on avait eu Rotter, un groupe de punk. Pas très sympa d'ailleurs. Les interrupteurs étaient quatre et il y avait une fille au micro. Le genre pas très à l'aise avec son corps. Elle avait les cheveux dans les yeux, portait des vêtements informes. Elle ne parlait presque pas. Quand je l'ai vue, je me suis demandé ce qu'elle faisait là. Et puis trois garçons, guitare, basse, batterie. Rien que du très classique. Les groupes avec des filles au micro, c'était à la mode. Blondie, les Pretenders. Mais si les interrupteurs voulaient s'en servir comme argument de vente, c'était raté. Les interrupteurs, comment vous dire? Dès qu'ils sont entrés dans la boîte, j'ai compris qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir avec les autres. Je connaissais la musique, je la connais toujours. Et le milieu aussi. J'avais 8 ans de plus que mon mari et j'avais bossé chez Paille, à Londres. Des groupes, j'en ai vu passer un certain nombre. Eh bien, juste aller voir s'installer, je pouvais dire à coup sûr ce qui était venu là pour le fun et ce qui avait une idée précise de ce qu'il ferait le lendemain. Les interrupteurs, c'était plus que ça. Avant qu'on ne procède à l'enregistrement, j'étais avec François, derrière la console, et je les ai vus faire un truc inouï. Ils se sont rassemblés tous les quatre. Ils formaient un cercle en se tenant par les épaules. Ils fermaient les yeux. Le batteur m'a dit après qu'il s'agissait de coordonner les énergies et le souffle. Ne faire plus qu'un. Puis ils ont hurlé. Un cri, Seigneur. J'ai sursauté. Le son a traversé la vitre que j'ai cru qu'ils allaient la briser. Ces gens sont de vrais bouffons. On va s'emmerder sec. C'est ce que m'a dit François. Il avait du nez pour ça, mais ce jour-là, il s'est lourdement trompé. Et puis ce groupe, ils étaient tellement attachants. Je les ai trouvés assis, dans le couloir, le jour de l'enregistrement. C'est le concierge qui leur avait ouvert. Ils étaient là. La fille faisait du yoga, non mais vous imaginez ça? Du yoga sur la moquette. Les trois autres bouquinaient, leur instrument posé à côté d'eux. Quand je suis entrée, ils se sont levés et m'ont salué en me disant « Bonjour madame ». J'étais à peine plus âgée qu'eux, j'en ai souri. La fille m'a fait un signe de loin et puis François est arrivé. Il les a tutoyés tout de suite, histoire de les mettre à l'aise. Mais les quatre interrupteurs, ils répondaient rien. C'est marrant, je me souviens que le guitariste avait une petite cicatrice au-dessus de la lèvre, comme vous. Alors François a commencé à parler. Il leur expliquait tout. C'est toujours impressionnant pour un jeune groupe de venir faire son premier enregistrement. Eh bien, eux, ils étaient d'un calme. On aurait dit des étudiants en philo ou un truc comme ça. La fille regardait ses baskets et les trois autres nous fixaient avec des sourires de joconde. Puis le bassiste a dit, ça m'a marqué, « On veut faire une prise pour chaque morceau, comme pour un live. » La tête de François quand ils ont installé leurs instruments, il râlait. Encore des inconnus qui se prennent pour les Beatles. Sauf que les Beatles, c'était 30 prises. Quand ils vont écouter le résultat, ils vont pas être déçus. Je connais mon métier, merde. Il a tiré son fauteuil et on s'est installé. Je lui ai dit de leur faire confiance et puis bon, le client est roi alors.
La suite de ses confidences, je l'ai recopiée à partir du petit enregistreur que j'avais posé sur la table du bistrot. Et même photocopié pour être sûr de ne pas les garer. Je perds tout. Ces temps-ci. Les interrupteurs étaient donc en studio et Nadine et son mari derrière leur potard. Le batteur a tapé sur ses baguettes. Je me rappelais alors que j'en avais une de baguette, remise par Jackie. Mais impossible de remettre la main dessus. Et ils ont envoyé le premier morceau. Au bout de 10 secondes, Nadine s'est retrouvée plaquée contre le mur du fond. De là, elle voyait les mains de son mari trembler. Le boss, c'était lui. Il ne fallait pas qu'il montre son trouble, mais elle sentait comme de l'électricité passer dans le studio. J'aime bien ce passage. Je le relis souvent. Jamais il n'avait ressenti ça. Cette impression à la fois de nouveauté et de compilation. Comme si ces 4 gamins avaient digéré les 20 années de rock'n'roll qui les avaient précédées. Je relisais encore une fois ce passage ce matin-là quand mon ordinateur m'indiqua que je venais de recevoir un message. Une femme répondait à mon annonce, celle parue dans Libé 2 mois auparavant, dont elle avait trouvé un exemplaire en allant aux chiottes chez une copine. Le côté abrupt de cette confidence me rassura. Voilà le genre de personnage qui ne pouvait pas mentir. J'avais reçu tant de réponses farfelues que j'en étais venu à ne même plus ouvrir les messages que parfois je supprimais tout en regrettant mon geste. Cette femme disait s'appeler Nathalie, comme à peu près la moitié des filles de sa génération. Et elle précisait dans son message que les interrupteurs, elle connaissait bien. Elle voulait me rencontrer. Si j'acceptais de la revoir, après tout ce temps, j'eus un doute et revins à ma lecture des confidences de Nadine sur les enregistrements des interrupteurs.
Au bout de 10 secondes de musique, je me suis retrouvée plaquée contre le mur du fond. J'avais l'impression d'être prise dans un champ magnétique. Je voyais mon mari trembler de la tête aux pieds, ses mains qui frôlaient la table ne sachant que faire. Je crois qu'il tentait de se contrôler avant tout, faisant mine de régler la table, mais il ne faisait rien. Et moi non plus, qui mis un temps infini à me rapprocher de lui, j'avançais comme dans un cauchemar, tu sais, au ralenti. Je me rappelle avoir posé mes mains sur ses épaules pour ne pas tomber, mon cœur partait dans tous les sens. Bon Dieu de merde, qu'il répétait dans sa barbe, François. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je crois simplement que ce qui se passait de l'autre côté de la vitre était quelque chose d'unique, d'impensable pour les gens comme nous. Nous n'étions pas anglais, pas américains, pas même de Paris, et c'était là, comme une manifestation de la chance, un coup du destin pour des petits provinciaux qui nous disaient que nous ne faisions pas ce travail pour rien. On tient quelque chose, qu'il répétait François. Le premier morceau s'appelait « Exil du regard ». Ça s'ouvrait sur un solo de batterie, le truc impensable. Personne n'ouvre sur un solo de batterie. 20 secondes de créativité, comme si le musicien avait intégré dans son jeu la mécanique de Charlie Watts, l'inventivité de Kiss Moon et la folie des concerts de Mitch Mitchell dans une maîtrise parfaite, et ce jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La chanteuse, la fille maigrelette dont je n'avais toujours pas vu le visage, a alors relevé la tête. Une folle, avec un regard de démente. Et là, elle a hurlé. C'est ça, je crois, qui m'a scotché au mur. Un cri qu'on aurait dit Roger Daltrey, période live athlete. J'ai même pas cru que c'était elle. Je pensais qu'on torturait quelqu'un à l'étage du dessus, mais je le redis. Il voulait un enregistrement comme en live, pas le droit à l'erreur. Et elle avait dosé la puissance de sa voix au millimètre. Et pendant tout l'enregistrement, je me demandais comment on pouvait faire sortir une telle voix d'un corps si chétif. Elle oscillait sans cesse. Je voyais Janis, j'entendais Freddie Mercury, sa voix me perçait les oreilles comme celle de Nina Hagen. Elle était tout ça à la fois. Tous ces chanteurs, ces chanteuses, et pas une once de sexy. Son survêtement comme un pyjama, ses pompes trouées, rien pour plaire.
Je dus mettre sur pause. À nouveau, j'avais un message sur mon ordinateur. Nathalie, j'aimerais vraiment qu'on se revoie. J'ai pas tout oublié, mais je ne te ferai pas de reproches. Tant d'années se sont écoulées. J'ai vu que tu habitais dans le 7e, il y a un bar sympa, pas loin de chez toi, le Blabla Café. Vers 19h, si tu veux. pas oublié. Mais oublié quoi ? Visiblement, j'ai dû la croiser. Voire plus, qui sait ?
Et le morceau ? Quel morceau ? Et chanté en français. Le texte, on aurait dit qu'il était extrait d'un livre d'Antonin Artaud. C'était rock et subtil et cru, poétique. Et la fille qui envoyait ça avec un phrasé, une diction parfaite, portant chaque syllabe d'une voix d'outre-tombe, martelant le refrain, c'était... Comment c'était, déjà ? Mince, il y avait ce passage... Ton altérité inquiétante, ta vie marquée rouge au fer, rouge de cochonnerie de menthe, religieuse remontée des enfers. Quel truc de fou, pas vrai ? C'est le bassiste qui écrivait les paroles, tous les textes étaient de lui, tous ceux des chansons qu'ils ont enregistrées ce jour-là. Fallait oser tout de même. Le rock ne se nourrit pas de ce genre de paroles, le rock c'est plutôt « bourre-moi le mou ». La chanteuse, slammée par instant, on aurait dit Gainsbourg. Moi je ne comprenais plus rien, le morceau devait faire quoi, 4 minutes et à l'intérieur on pouvait compter 5 morceaux. Je te mens pas, on sentait une capacité dans la composition, une aisance, rien de forcé. Tu te rappelles de Space Oddity ? Ah, Bowie, un chef-d'œuvre cette chanson. Et tu sais pourquoi ? Parce que Bowie montre à tout le monde sa façon de découper Space Oddity en autant de morceaux qui auraient pu faire autant de bonnes chansons. Mais il ne le fait pas. Il offre au public 5 chansons en une. Eh bien, Exil du regard, c'était ça. C'était pareil.
À ce moment-là, j'ai arrêté l'appareil, j'ai placé Space Oddity sur la platine. Elle avait raison, Nadine. Il y avait bien 5 morceaux sur cette plage. Je retournais la pochette et trouvais de vieilles annotations de ma main, des trucs illisibles, et un énorme point d'exclamation.
Le groupe a enregistré 3 autres morceaux, toujours dans la même configuration, comme si c'était en live, mais sans public. Le plus étrange, c'était qu'il prenait 10 minutes entre chaque morceau, loin d'être un concert. C'est à la fin que j'ai enfin vu la chanteuse sourire. Elle avait l'air satisfaite du travail, et la réécoute des morceaux l'a enchantée. Les autres aussi étaient contents du résultat. Ils étaient beaucoup plus détendus. L'entente entre le batteur et le bassiste faisait plaisir à voir. Ces deux-là jouaient à se courir après, mais le plus étonnant était la complicité entre le bassiste et le guitariste. Ils se comprenaient. Comme deux marins embarqués sur le même bateau, qui devinent, anticipent leurs gestes réciproques, réagissent en fonction de leur propre créativité, tout en offrant à l'autre un champ d'expérimentation, une porte, un soutien. Je n'irai pas jusqu'à parler de jazz pour les interrupteurs, mais quand même, il n'était qu'un, vraiment. Comme après la toute première rencontre de Led Zepp, tu vois. Il paraît que Robert Plant, Jimmy Page et les deux autres se sont regardés avec l'étonnement de gamins qui découvrent qu'ils sont du même sang, du même bois dont ont fait les rockers et que rien, jamais, ne pourra les arrêter.
J'arrêtais la lecture. Je n'ai même pas ce passage où Nadine me confiait que c'était le plus gros ratage de sa vie. Sa plus grande déception. Pire que son premier mariage. Elle et François venaient de monter leur label. Pas grand-chose au catalogue. Mais dès la fin du premier enregistrement des interrupteurs, ils savaient tous les deux qu'ils allaient les signer. Et puis rien. Elle partait ensuite sur des considérations plus générales, cette impossibilité propre à la France d'avoir de vrais groupes de rock, de ceux qui durent et qui peuvent se renouveler et s'exporter. Elle parlait de son incapacité à elle et à son mari, des années à enregistrer, à signer, et puis des existences éphémères, des groupes qui ne percent pas, des concerts devant 30 personnes. Et les fins en queue de poisson, les interrupteurs, c'était ça. 2 tests presse, des acétates, comme on dit aujourd'hui, des morceaux qui ne sont jamais sortis dans le commerce. Et quelques concerts, dont il ne reste rien.
Et puis après, ils ont enregistré les trois autres morceaux. L'effet de surprise était passé et pourtant, à nouveau, on a ressenti cette aspiration. Pour beaucoup de groupes, c'est un bon morceau et puis au revoir. Tu connais le Don't Look Back, des Remains, My Sharona, des Knax. Un petit tour et puis s'en va. En fait, tu connais bien la musique. Tant mieux. J'aime pas parler avec des gens qui font pas la différence entre Aretha Franklin et Céline Dion. Mais les Interrupteurs, c'était plus que ça. Les quatre morceaux mis en boîte ce jour-là étaient de la même qualité. On identifiait leurs pattes en un instant et j'avais senti que des morceaux, ils en avaient d'autres en réserve. Mais bon, ils n'avaient pas un rond, avaient loué le studio pour la demi-journée et rapidement, il fallait libérer l'endroit. François avait un contrat tout fait pour eux, mais ils ont dit qu'ils allaient réfléchir. C'était un peu des intellos et puis, clairement, on ne pouvait pas leur promettre grand-chose. Quand ils sont partis, on s'est dit que c'était foutu. Bientôt, ils auraient leur test presse, 2,45 tours dont ils se serviraient pour aller démarcher d'autres maisons, plus grosses, qui leur ouvriraient des portes, la promesse d'un album. Ils avaient cassé leur tirelire pour tout payer, rester indépendants. François voulait pas les brusquer. Je les ai revus une dernière fois, quelques semaines plus tard. C'est le guitariste qui est passé rue Laurencin, récupérer les disques. Et puis, plus rien.
Dans ces derniers mots, je sentais tout le désespoir de Nadine. Je revoyais son regard perdu sur la table du bistrot où on s'était calé pour enregistrer. Son mari était mort depuis longtemps, elle avait quitté le métier et elle me quitta ainsi, me souhaitant bonne chance dans mes recherches. Je descendis les escaliers de l'immeuble pour vérifier si quelqu'un m'avait envoyé quelque chose. J'avais bien avancé dans ma quête, mais je n'étais pas contre un coup de main supplémentaire. La boîte était vide, à part une enveloppe, un truc publicitaire que je déposais sur le buffet de l'entrée en rentrant chez moi. Restait cette Nathalie, qui m'avait envoyé deux mails et qui voulait me revoir. Sans doute pourrait-elle m'apprendre des choses, même périphériques. Bouledingue m'avait indiqué plusieurs sites spécialisés dans la vente de vinyle. Au petit bonheur, sur les sites de streaming, d'écoute en ligne, il n'y avait rien. Chaque jour, j'entrais les interrupteurs dans les moteurs de recherche. Ce matin-là, je fis comme la veille. Vinyl Online me suggéra alors « Vous voulez dire The Interrupters ?» Je découvris qu'un groupe américain portait ce nom. Ça me fit sourire, mais rapidement, je débouchais sur une impasse. J'entrepris alors de répondre à Nathalie, faisant semblant de savoir qui elle était vraiment. Et à 19h, je me rendis au Blabla Café, espérant qu'un regard, une coiffure me fasse reconnaître mon interlocutrice. Je m'assis en terrasse et c'est une femme assise plus loin qui se leva alors pour me rejoindre, son verre à la main.
Salut, je suis arrivée en avance. On s'embrasse ?
Je sentis immédiatement dans son geste qu'une connivence avait existé entre nous et que visiblement, cette femme qui avait passé la soixantaine ne m'avait pas oublié.
On va éviter de parler de nos vies respectives. Enfants, boulot, crédit, qu'en penses-tu ? J'ai trouvé ton annonce par hasard. Relire ton nom m'a fait un choc. Après toutes ces années. Mais j'ai pas quitté Lyon. Et j'aime toujours aussi peu le rock. Je sais que ça t'agaçait à l'époque. Même si tu me l'as jamais dit. Que veux-tu ? Famille bourgeoise, éducation classique. J'en suis restée à Bach, Elite. Barbara aussi. Je viens de découvrir Raphaël Lanader, tu connais ? Je te prêterai ces disques, même si c'est pas vraiment ta came. Mais toi, comment tu vas ? Et ta recherche ? T'as retrouvé le groupe ?
Je bafouillais quelques mots sur les personnes qui m'avaient contacté, mon entretien avec Nadine, que Nathalie connaissait de réputation, et les impasses dans lesquelles je m'étais fourré.
Les impasses, t'es coutumier. Non, je suis vexante, excuse-moi. Peut-être qu'après toutes ces années, toutes ces putains d'années sans nouvelles de toi, tu pourrais me donner une explication. Un matin, t'étais plus là. Disparu. Quelqu'un m'a dit que tu vivais en Irlande. C'est vrai ? Que t'avais craqué pour une belle rousse ? Que t'avais tout largué pour la suivre et que...
Excusez-moi, madame, mais je vois pas qui vous êtes. Nathalie, vraiment, ça me dit rien. Mon interlocutrice se leva alors en furie et me jeta son verre au visage avant de filer et de disparaître au coin de la rue. Restait là, comme un con, et les clients d'à côté qui déjà commentaient en se marrant. Je sortis d'un mouchoir pour éponger mon visage, puis rentrai chez moi. 15 jours plus tard, je n'avais pas plus avancé. Les interrupteurs avaient définitivement disparu dans le silence des réseaux. Rien sur ses membres, ni photos, ni affiches de concert. Pas de trace des 2 disques qu'ils avaient faits. Pas une note, pas un mot ne sortirait de tout ça. Il fallait me rendre à l'évidence et abandonner cette quête éperdue dans laquelle, visiblement, je me perdais. Et puis à 14h, Mélanie, ma petite fille, devait passer me prendre. Je me rappelais bien de l'heure et elle fut ponctuelle.
T'es prêt, grand-père ? Tu sais qu'on a rendez-vous. Tu te rappelles où on va ? À la bibliothèque de la Part-Dieu. Tu peux pas rater ça quand même. T'as reçu une invitation. Mais si, moi aussi, puisque je t'accompagne. Non, c'est pas de la pub, c'est ton invitation. Ouvre-la. Ah, tu vois ?
Je passais ma veste et mis mon écharpe. Dehors, un vent fou soufflait du nord. C'était désagréable. Nous prîmes le métro et on arriva à la bibliothèque où une grande affiche annonçait une exposition exceptionnelle. Le rock à Lyon, 1950-1980. Mélanie était tout sourire, particulièrement fière de m'accompagner. L'exposition n'ouvrait que le lendemain, mais nous avions des invitations qui nous permettaient de visiter les salles avant tout le monde. L'organisateur promettait des photos, des affiches, des interviews, des objets rares. Mélanie me guida jusqu'au 2e étage et on entra. Rapidement, elle me prit la main et me dirigea vers le mur de gauche.
Tu te rappelles, grand-père ? Regarde les photos, là.
Je restais interdit. Un pan de mur était consacré aux interrupteurs. Photos de concert, interviews dans la presse spécialisée lyonnaise, une baguette de batteur.
La baguette, c'est celle que tu m'as donnée le mois dernier. Tu t'en souviens ?
J'acquiesçais vaguement. Je découvrais, fixé sous verre, des photos du groupe où je me voyais, jeune homme, entouré de mes 3 potes, Dominique, Fabrice, et puis la chanteuse, Maryse. Une partition était là. Je reconnus mes griffonnements, et puis juste à côté, 4 textes de Dominique. Exil du regard, aux sombres Hespérides, des amulettes, et un autre, plus surprenant, fécalité créatrice.
C'est toi qui composais, grand-père. Mais tes chansons, vraiment, c'est pas mon truc.
Tu les as écoutées ?
Bien sûr, sur la platine de papa. Lui, il aime bien, mais moi... Tiens, regarde, ils sont là, les 2 tests presse.
Juste à côté, une photo, où les interrupteurs ne sont plus que 3.
Tu m'as tout donné quand t'es revenu t'installer à Lyon. Partition, paroles, disques, et même ta guitare. Tout ce que tu possédais concernant ton groupe. Tu m'as même dit que les autres avaient dû t'en vouloir à mort quand t'es parti avec. Et que t'as rejoint ton Irlandaise.
L'Irlandaise ? C'est ta grand-mère, je te le rappelle.
Si peu. Je la connais si peu. Elle est restée là-bas quand vous vous êtes séparés. Et toi, t'es partie avec ta fille, ma mère. À Paris d'abord, pour ton travail, puis à Lyon, à ta retraite. et t'as trimballé tout ça avec toi.
Mélanie me prit par le bras. Elle voyait bien, et je le sentais aussi, que ma mémoire foutait le camp. Ma fille avait parlé d'une institution, mais le médecin avait répondu que ça ne pressait pas. Pas encore. En marchant dans l'exposition, j'espérais juste avoir assez de temps pour pouvoir écouter les disques. Ces quatre morceaux de rock qui ont révolutionné la musique et que personne n'a jamais entendu.
Que je sois un ange, que je sois un diable, c'est aussi insupportable. Mon cœur est étranger, la musique le change toujours. Des larmes noires et blanches. Obscure.